Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique en direct pour Côté Club, votre magazine de toute la scène française et plus si affinité. Ce soir, Léo Birkrick de The Pirouette et Tsin Min Tsiu de 1515 sont nos invités. Bonsoir à vous deux.
Hello.
Yorana.
Et un nouvel album pour le duo électropop The Pirouettes. Ils avaient annoncé leur rupture sentimentale avec un titre, mais la collaboration artistique se poursuit. Il a fallu trouver un équilibre, c'est fait. Équilibre, c'est le titre du troisième album. 1515, mais alors qu'est-ce que c'est ? Un groupe ? Oui, mais plus que ça. Un collectif ? Mais encore mieux, un projet indisciplinaire. Oui, entre chansons, installations, vidéos, cinéma... Un projet qui porte même une parole politique, comme dans leur nouveau titre « Le Jeune », qui revient sur les essais nucléaires menés par la France en Polynésie entre 1960 et 1996. Marion n'était pas née.
Non, Marion. C'est sûr. Lui, il vient de signer « Nocturne », un disque collectif mélancolique chanté en créole et enregistré à feu doux. David Walters rassemble la France, le Mali, les Antilles. Il sera au téléphone avec nous vers 22h30.
Voilà, vous savez tout. Maintenant, on entend tout. Bienvenue au club.
Côté club... Laurent Goumard sur France Inter.
Et on ouvre tout de suite avec un trio inédit, M et IBI, pour une chanson coécrite avec le romancier Daniel Pénac et l'artiste Prune Nourry. Le titre, c'est « Amazon érogène » et c'est en lien direct avec l'exposition qui se tient actuellement au Bon Marché à Paris. Une installation monumentale, on y voit un immense sein en bois ciblé par une pluie de 888 flèches. L'œuvre est une métaphore de l'agression du cancer du sein de la sculptrice Prune Nourry, une maladie qui a totalement modifié son rapport à l'art. Amazon érogène, on peut l'entendre à double titre sur France Inter.
Une pluie de flèches empoisonnées s'abat sur ta poitrine de guerrière désarmée. Cœur de cible en ton sein touché, si jeune, sidéré, incompréhensible. D'où vient la flèche qui est l'archer? Mon Amazon, ce qui te gêne, ton cœur blessé, ta cicatrice ne change rien à ce que j'aime, ton ADN, oh, mon Éden, Amazon érogène, Amazon érotique, mon Amazon, tu es la même. Plus de flèches, bataille enragée, tant et tant de poitrines, tour à tour transpercées. Tant de cordes à votre arc, je serai sa saint unique, Amazon héroïque. À mes yeux, vous n'avez pas changé. Amazon, ce qui te gêne, ton corps blessé, ta cicatrice, ne change rien à ce que j'aime. Ta matrice, mon Éden, Amazon érogène, Amazon érotique, mon Amazon, tu es la même. Mes Amazones, ce qui vous gêne, vos corps blessés, vos cicatrices, ne changent rien à ce qu'on aime. Votre domaine est notre Éden, Amazon érogène, Amazon érotique. Les Amazones, vous êtes uniques.
Amazon Érogène, une chanson avec M et IBI. Amazon Érogène, une exposition au Bon Marché à Paris, une exposition signée Prune Nourrie. Le Bon Marché est fermé. Tant pis, côté club est ouvert. Et on retrouve nos deux invités plateau ce soir, Léo Bercrick du duo The Pirouettes et Tsin Min Tsiu de 1515. Vous avez commencé à peu près en même temps, à la même époque, hein, 2012-2013, mais suffisant pour se connaître.
Et non. Bien non.
Eh ben c'est parfait. Donc on a une heure pour faire amplement connaissance. Et plutôt que de dérouler vos CV, je n'ai absolument pas envie de bosser. Je vais vous demander de vous présenter l'un à l'autre et donc à nos auditeurs. On commence par vous, Tsin Min Tsiu.
D'accord. Alors, du coup, je m'appelle Tsin Min et je viens de Tahiti. Et je fais partie du groupe 1515 qu'on a fondé avec quatre autres membres, dont un autre Tahitien.
Ouais.
Et du coup, ça fait quelques années maintenant, depuis 2013, là, qu'on s'est mis ensemble sous forme de collectif. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, pluridisciplinaire. On touchait un peu à tout, on a fait une école d'art, on sort d'école d'art, les AD d'Amiens. Et du coup, on voulait continuer à produire des choses à la fin de l'école, parce que travailler en freelance tout de suite, c'est un peu compliqué dans le monde. En fait, surtout, c'était saturé. Et donc du coup, maintenant, on s'était dit, vas-y, on fait un collectif. Et on se donnait un peu le pacte de faire tous les 15 jours un projet.
C'est pour ça que ça s'appelle 1515.
D'où le nom 1515. Tous les 15 jours, c'était un projet, c'était un track avec un visuel associé. Donc on travaillait tout.
Que vous postiez sur votre site internet à l'époque.
1515.com.
Voilà. 1515.com, parfait.
Notre exutoire.
Bon, ça c'est pas mal comme présentation, j'aurais pas fait mieux. Et pour vous, alors Léo ?
Alors moi c'est Léo, je suis né à Annecy et j'habite à Paris depuis que j'ai passé le bac. Et du coup j'ai fondé le groupe The Pirouettes avec mon ex-petite amie Victoria, qui a pas pu venir ce soir malheureusement, mais qui nous écoute je pense. Et là on sort notre troisième album, donc ça fait un petit moment aussi qu'on fait de la musique.
Et est-ce que le titre The Pirouettes peut donner une indication sur la musique que vous défendez ?
Oui, dans la mesure où on fait de la musique dansante, on fait de la musique pop électro, chantée en français, et The Pirouettes, c'est un mouvement de danse quoi.
Ouais.
Il y avait une scène musicale à Annecy ?
Oui, alors en fait j'ai commencé avec le groupe Coming Soon, dont je faisais partie avec mon frère et d'autres garçons. Et c'était un peu nous la scène musicale pour être...
D'accord, ok.
Je confirme.
Marion connaît le truc, très bien. Et de votre côté, il y avait une scène musicale à Amiens quand vous y étiez ?
Amiens, j'étais étonné, justement. C'est une ville assez dynamique au final, assez d'étudiants. Et franchement, j'ai découvert pas mal de choses sur la scène musicale, très rock quand même. Cold Wave, un peu comme ce qui se passe là-bas dans la région, mais au final, on s'est bien amusé là-bas, il y avait pas mal de choses à faire et à écouter.
Et à Tahiti ?
Alors là, Tahiti, c'est un peu différent, il y a une scène musicale, mais ça se produit souvent plus comme ça, on appelle ça des bringues. Nous, chez nous, là, la bringue, en fait, c'est ça rassemble des instruments et puis on se met tous à chanter.
Ah, c'est
plus
ça.
Comme ça, il y a des concerts, il y a des soirées dansantes, avec des orchestres, bien sûr, mais c'est pas comme ça qu'on la vit forcément tous.
Au début de 1515, vous parliez du fait que justement vous postiez tous les 15 jours sur Internet une vidéo, une performance. Par exemple, quel genre de performance vous postiez à l'époque ?
On est passé par plein d'étapes, mais la principale, c'était on faisait des installations interactives, numériques. Donc du coup, qui n'avait pas forcément...
Rapport avec la musique.
Mais en fait, on essayait, nous, bien sûr, notre point d'entrée, ça restait quand même souvent la musique. Par exemple, on a créé un séquenceur à échelle humaine, en fait, où les participants avaient des capteurs et ils se disposaient sur un cercle, sur un disque, et qui, en fait, avec selon le tempo qu'on pouvait décider, ça jouait des batteries qu'on pouvait sampler, et ensuite on passait à des instruments, et selon l'endroit où on se plaçait sur le cercle, on faisait évoluer la mélodie.
Très bien, on va revenir sur ce parcours dans quelques instants. Tout de suite, on passe du côté de The Pirouettes avec un extrait du troisième album. Il n'y a que toi pour le nouvel album qui s'appelle
Il n'y a que toi.
Il n'y a que toi pour le nouvel album qui s'appelle Équilibre.
Tu me brises le cœur, babe, mais je t'en veux pas. Ça me fait trop peur, babe, de perdre ce qu'on a. Voyeur, pourquoi pas? Pour une heure, pour un mois, je fais le tour de la question. Et tu me brises le cœur, babe, mais je t'en veux pas. Ça me fait trop peur.
secours. Il n'y a que toi dont je suis sûr de ça. Je t'assure, pas sûr de moi, ça c'est sûr. Mais si t'es là, ça me rassure. Il n'y a que toi dont je suis sûr de ça. Je t'assure, pas sûr de moi, ça c'est sûr. Mais si t'es là, ça me rassure.
Il n'y a que toi, signé The Pirouette, avec un clip qui met en scène une dispute conjugale. Donc on voit bien où on en est. La rupture est aujourd'hui complètement consommée, mais la collaboration artistique se poursuit. C'est facile de travailler avec son ex, Léo ?
C'est pas tous les jours facile.
J'étais sûr. Mais au moins, c'est de cash, c'est vrai.
C'est compliqué. Après, je dirais que ça a été très inspirant. C'est vraiment ce qui a inspiré tout l'album, en fait, cette rupture. Et on avait envie de parler aussi de cet aspect-là du couple, que tout le monde a vécu à un moment, la séparation, et c'est important de le chanter aussi, je pense.
Vous avez pensé un temps que vous pourriez avoir chacun et chacune une carrière solo ?
Bien sûr, on pense à la suite et on va tous les deux trouver des moyens d'expression diverses, on est tous les deux artistes, on pense pas faire autre chose, mais en tout cas on avait envie de finir la trilogie, c'est un troisième album et on avait envie de finir en beauté, quoi. Aussi pour nos fans, parce qu'il y avait une attente, qu'on avait envie de leur faire plaisir.
Ah donc d'ailleurs, c'est annoncé comme le dernier album de The Pirouette, en fait ?
On sait pas trop.
Ouais, manifestement, vous le savez un
peu. C'est un peu dans une interview sur deux qu'on dit que c'est effectivement le dernier ou pas. Il faut jamais dire jamais, hein. On sait pas.
C'est la tendance, hein. En ce moment, on a eu Thérapie Taxi aussi qui ont publié un EP de rupture aussi. Ouais. Rupture de merde, ça s'appelait d'ailleurs. Leur EP. Ouais.
C'est marrant parce qu'on est un peu ennemis avec Thérapie Taxi.
Ah ouais.
Pour quelle raison?
Je sais pas. Ils nous avaient rapidement clashés sur Internet dans une vidéo et, moi, j'ai rien contre eux personnellement, et j'avais même proposé aux chanteurs de Thérapie Taxi qu'on mette en scène ce clash, parce que ça aurait pu faire du buzz sur Internet. Malheureusement, comme c'était la fin pour eux, ils n'avaient pas envie d'être dans cette dynamique-là, donc ils préféraient pas. Dommage.
En effet, le timing n'était pas vraiment le bon. Alors, ça a changé pas mal de choses, cette rupture. Alors, vous l'annoncez peut-être la fin de ce duo, mais je pense aussi que vous avez aussi chacun dans cet album des chansons que vous chantez seul, alors qu'auparavant, vous débrouillez toujours pour que les titres se soient faits à deux.
Oui, c'est ça. La nouveauté, c'est qu'on chante vraiment séparément. Dans les premiers albums, on était toujours à l'unisson.
Toujours.
Et on chantait d'une voix. Et là, maintenant, on peut, chacun notre tour, exprimer notre point de vue. Et c'était important parce qu'on est maintenant séparés. On peut pas parler en même temps toujours, quoi.
Et sur le plan musical, justement, il y a une identité plus proche de vous, une identité plus proche pour elle?
Alors, c'est un double album, équilibre. Donc, il y a un peu une face Vicky et une face Léo. Après, c'est pas aussi marqué que ça, le changement. Enfin, je veux dire que dans les morceaux, on a chacun un couplet. C'est pas moi je chante tout seul, elle chante tout
seul.
Bien sûr. Voilà.
Et la face Léo, elle serait de quel ordre ?
Bah, c'est la meilleure, clairement.
Ah bah voilà, d'accord, très bien. Bah alors, je peux vous dire que c'est le dernier album de The Pirouettes et nous écoute ce soir. Léo, pour comprendre d'où vient ce son très particulier, un pop électro de The Pirouettes, on va refaire l'histoire en chanson que vous allez nous commenter. Premier titre.
Wow. À l'ancienne.
C'est retour aux origines, ce titre.
Ouais, ça date de 2007, ça, je crois.
Ouais.
C'est un morceau du premier album de Coming Soon, mon premier groupe. Un morceau qui s'appelait Big Boy.
Vous étiez dessus, déjà ?
Ouais, c'est moi qui chante, là.
Avec cette petite voix.
Et ouais, j'avais pas encore muet à l'époque.
Mais vous aviez quel âge ?
J'étais au collège, je sais pas, je devais avoir 14-15 ans.
Ouais, en quatrième.
Mm-hmm.
Ça a plutôt bien marché, d'ailleurs, à l'époque. Ça veut dire que très jeune, vous avez fait des sets, des concerts ?
Ouais, c'est ça. Ça fait longtemps que je suis dans ce milieu-là, en fait. Donc, finalement... The Pirouettes, ça s'est développé assez facilement aussi grâce à mon bagage Coming Soon, quoi.
Il écoutait quoi, votre frère, votre grand frère? Parce que généralement, on écoute les disques.
C'est sûr, moi je lui dois beaucoup à mon grand frère, Ben. Je lui passe un petit coucou d'ailleurs s'il m'écoute. On écoutait beaucoup de folk rock. On écoutait Bob Dylan, Johnny Cash, Leonard Cohen. Plutôt des chanteurs anglo-saxons, en fait.
D'ailleurs,
et
au départ,
c'est vraiment avec
en anglais,
les Pirouettes ouais. que je suis passé au français.
Mm. Alors justement, et de votre côté, Tsin Min,
oui.
qu'est-ce que vous écoutiez quand vous étiez plus jeune?
Ouf. Franchement, j'écoutais vachement de tout. D'ailleurs, je m'en rends compte en soirée, je connais les paroles de tout type de morceaux, R&B, rap, à l'ancienne, rock aussi. Mon père aime pas mal de rock'n'roll, mais plutôt du rap, je pense.
Très bien. Deuxième titre, on est en 2012, année de sortie du premier EP pour vous, The Pirouettes. On est en 2012, c'est de la fondation The Pirouettes, avec donc une reprise d'une chanson de France Gall et de Michel Berger, Comment lui dire ?
Oui, c'est un peu nos idoles, France Gall et Michel Berger. On a souvent repris des morceaux à eux.
Et c'est avec ce titre que vous êtes mis à chanter en français ?
Tout à fait.
Alors qu'apparemment, c'était en anglais.
C'est vrai que les tout premiers titres de The Pirouettes, c'était en anglais, mais rapidement on a compris que déjà le français était plus à la mode. Et il y avait des groupes comme La Femme à l'époque qui émergeaient et qui nous influençaient énormément. Donc... c'était évident qu'il fallait qu'on choisisse le français. Et aujourd'hui, je ne regrette pas ce choix. C'est vraiment la langue dans laquelle je suis à l'aise pour écrire, quoi.
Alors, vous avez pris à ce moment-là deux noms de scène. Vicky Sherry pour elle. Léo Birch Creek pour vous.
Mm-hmm.
Un mot sur ces
pseudos ? Je commence un peu à me lasser de ces pseudos. Enfin, en tout cas, du mien.
Pirouette, c'est fini.
Non, mais en fait, c'est un pseudo qui date de l'époque Coming Soon.
Je peux vous dire qu'il est super dur à dire.
Il n'est pas évident. Ouais. Il faut que je trouve quelque chose de plus catchy, je suis d'accord.
Léo, c'est super.
En plus, je m'appelle Léonard. Pour de vrai, donc il y a peut-être un truc à faire avec ce prénom, à voir.
Donc,
mais Vicky Sherry, je trouve ça toujours très mignon.
Vicky Sherry, c'est très bien. Ça fait un peu Crazy Horse Saloon, mais c'est pas mal. Et Léo Bear Creek, comment vous aviez conçu ce pseudo ?
Alors c'est mon frère qui me l'avait donné, et je crois que Bear Creek, c'était une chanson de la Carter Family, donc la famille de June Carter.
D'accord, c'est pour cette raison. Le clin d'œil à Michel Berger, à France Gall, vous allez le poursuivre plus tard avec Monopolis. Hein, c'est le titre de votre deuxième album, en référence à la ville de Starmania, l'opéra rock de Berger de Luc Plamondon. Les références à Berger et à France Gall, elles passent à quel niveau, en fait, pour vous ?
Pour moi, c'est le meilleur songwriter français, Michel Berger. J'ai pas trouvé de plus belle chanson que chez lui. Tout simplement, ça me touche. Je trouve qu'il arrive de manière très simple à être vraiment émouvant. Avec des mots très simples.
Vous diriez la même chose, vous qui connaissez absolument tout, Tsin Min ?
Bah, je suis assez d'accord quand même. Une belle écriture, j'aime beaucoup ce qu'il écrit, donc en règle générale, je suis assez d'accord.
Moi, je me demandais quel était le chaînon manquant entre Leonard Cohen, le rock alternatif de Coming Soon, et Michel Berger, The Pirouettes. Il manque un truc pour moi au milieu, là.
Je pense que justement, j'ai trop baigné dans la musique anglo-saxonne étant plus jeune et que j'avais besoin d'un retour au français. En fait, c'est une musique que j'ai découverte tardivement, vraiment sur la fin de l'adolescence. Et voilà,
en fait, c'était votre crise d'ado, quoi.
Un peu, ouais.
On passe en 2016, premier album pour The Pirouettes, carrément, avec un tube.
Ouais, t'as compris.
Ça sonne comme l'évidence d'un tube, hein.
C'est vrai que c'est un morceau qui nous a porté loin. Il a vraiment eu son petit effet, l'escalier. Et aujourd'hui encore, quand on le chante en concert, c'est vraiment le morceau que toute la salle connaît par cœur. Et donc sur internet, vous pouvez trouver plein de vidéos super émouvantes, que ce soit à la Cigale ou à l'Olympia, d'un public en feu qui connaît toutes les paroles, quoi.
Vous avez pu aussi évoluer sur la scène internationale ou européenne, en chantant en français ?
Assez peu, on a fait quelques concerts à l'étranger, beaucoup en Belgique, en Suisse, au Canada. On a joué une fois à New York, mais malheureusement, on ne s'est pas plus exporté que ça. Et j'espère que ça viendra, quand
pour
les concerts reprendront.
Un mot sur la diction très prononcée, parce que c'était ça qui était aussi intéressant dans The Pirouettes. Un son très 80s, alors que ce n'est pas forcément vos références à l'époque. Et surtout cette diction presque synthétique que vous aviez.
C'est vrai, c'est un choix. En fait, on chante comme on parle. Et on n'est pas vraiment des interprètes avec Victoria. On essaie de chanter de manière très simple. C'est vraiment la mélodie qui prône, quoi.
2021, nouvel album, Équilibre. Ça raconte quelque chose de vos rapports à la création, puisque Vicky signe aussi ses textes aujourd'hui, maintenant.
Oui. Les textes sont plus partagés maintenant sur ce troisième album. Et l'équilibre, c'était vraiment l'idée de trouver le point d'entente entre nous deux, quoi. D'arriver à faire cet album malgré nos relations un peu houleuses. Et c'est fait, donc je suis fier de ça.
Ça veut dire que, quand vous parlez de relations houleuses, il me vient plein d'images que j'ai même moi-même pu traverser. Ça veut dire que s'il y a une tournée, si les tournées vont reprendre, vous savez que vous en avez pour un an encore.
Ouais, c'est le deal. Et en fait, on espère qu'il y aura des concerts parce qu'on adore ça. Et en plus, en concert, on est entouré de toute notre équipe, nos musiciens.
Ah ben c'est ça, qui feront le tampon. Parce que j'ai regardé, il y a eu un article qui est paru sur les couples qui se séparent dans la musique, et il y a l'expérience de Cults qui se sont séparés et qui ont passé quand même un an, enfin, qui se sont retrouvés enfermés dans un van pendant 7 semaines, avec bien sûr plein de problèmes de couple. Et ils racontaient, on ne pouvait plus être dans la même pièce seuls tous les deux, c'était trop bizarre. Donc on s'évitait. Le problème, c'est qu'on devait quand même prendre des décisions ensemble, planifier des choses, et ce n'est pas vraiment arrivé pendant une année entière, on en était incapable. On avait des intermédiaires, ce qui n'était pas très sain. Je vous souhaite autre chose quand même.
Mais on a un peu vécu ça avec Vicky parce que, en fait, pendant longtemps, on a dû cacher le fait qu'on n'était plus ensemble. Pendant toute la promo de notre deuxième album, les gens étaient encore attachés à notre image de couple et on pouvait pas révéler que, bah voilà, dans la vie perso, c'était pas ça, quoi. Donc ça a été un peu compliqué.
Du style, ouais, en entretien, tout va bien. Et puis dès que vous sortez du studio, c'est mais qu'est-ce que t'as dit? Mais
c'est
pourquoi?
Ça. C'est ça.
Ça fait penser un peu au yéyé aussi, au couple qu'on formait comme ça et puis qui derrière pouvait se déchirer ou pas du tout s'adresser la parole.
Mm-hmm. Est-ce qu'il y avait des divergences artistiques qui sont nées véritablement sur le son, sur les thèmes, les sujets qui étaient apportés?
Non, pour le coup, artistiquement, on a toujours été sur la même longueur d'onde.
Ah, c'est pour ça que ça peut continuer.
Ouais,
comme ça,
on se fait confiance, en fait. Moi, je suis toujours satisfait des textes que Vicky me propose et inversement.
Très bien.
Non, c'est plutôt la bonne entente. Je veux pas dégager une image de tristesse ou quoi. C'est chouette, hein. Franchement, on est ravis de tout ce qui se passe pour nous.
Et pour vous, dans le cadre de votre groupe 15-15, tout se passe bien ?
Écoutez, tout va bien.
Tout va bien pour l'instant.
Voilà, on vote les décisions.
C'est vrai ?
Non, pas spécialement. On fait confiance aussi pas mal aux autres et en ce qu'ils peuvent donner.
On va revenir avec ça. Léo et Tinmin, vous restez avec nous. On va retrouver Marion Guilbeault dans quelques instants. Mais tout de suite, c'est Camélia Jordana qui sera notre invitée mardi prochain avec son nouvel album, Facile, Fragile. Camélia qu'on suit jusqu'au bout des cils sur France Inter.
Tes yeux me font la vie, des rêves cotonnes au salut de la nuit. L'enfer droit comme un lit. Tu ris des dents. parce qu'elle t'amuse comme des filles amoureuses. Tu m'as corrompu jusqu'au bout des cils. La saison défile, les racines ont bu. Ce temps-là me plaît, ici l'hiver n'est plus. Ce temps-là me plaît, ici l'hiver. Rancune, tu dis des mots fragiles, un peu comme je les fume. Avec des airs gamins, tu parles un peu plus fort. Alors j'oublie encore, demain, j'oublie demain. Tu m'as corrompu jusqu'au bout des cils. La saison défile, les racines ont bu. Ce temps-là me plaît, ici.
Marion, je ne vous retiens pas, vous avez un rendez-vous tout de suite.
Mais tout à fait Laurent, moi je pars à Marseille avec David Walters. Ça va David ?
Ça va Marion, bonsoir.
Bonsoir
à tous.
David, en 2020, vous aviez publié « Soleil créole », un disque qui avait été freiné, comme beaucoup d'autres, hein, par l'arrivée du Covid. Vous étiez venu en parler dans Côté Club, c'était cet automne. Six mois après, vous sortez « Nocturne ». Est-ce qu'on peut voir ce disque comme un tirage photo négatif de « Soleil créole » ?
Absolument. C'est un tirage photo négatif, comme vous dites. C'est un tirage argentique de ce qu'on a vécu cette année. Voilà, on a coupé un petit peu l'herbe sous le pied. On était en plein élan de tournée. Je parle du monde entier, pas que les artistes. Mm-hmm. Et c'est vrai que le fait de se retrouver comme ça, confiné du jour au lendemain, ben ça donne des envies d'intime, de moments plus intérieurs. Et donc c'est ce qui exprime cet album Nocturne, qui est un album complètement acoustique.
Oui, parce que vous avez commencé chez vous en jouant à la guitare, c'est ça ?
Absolument, ouais. J'ai commencé à jouer, à composer des morceaux dans les pièces de la maison. Et petit à petit, j'ai invité des copains, Vincent Segal.
Oui, au violoncelle.
Au violoncelle, je lui ai proposé une collaboration. En fait, on a fait quelques lives sur les réseaux, comme beaucoup d'artistes. Et puis, on en a fait un, on en a fait deux, et puis j'aimais beaucoup la couleur, et je lui ai dit, ce serait vraiment génial qu'on organise une session acoustique. Il m'a dit, oui, ce serait super d'inviter Roger Raspail, un percussionniste guadeloupéen. Et moi, je lui ai dit, ce serait super d'inviter Balaké Sissoko, puisque je sais qu'ils jouent depuis de nombreuses années ensemble. Et ça s'est monté comme ça, à coup de téléphone, et on s'est donné rendez-vous à la sortie du premier confinement, en juillet. Et on a enregistré cet album en 3 jours comme une session live, comme une session jazz live, sans retouche.
David Walters, quelle est la pièce la mieux chez vous pour faire de la musique? Vous disiez que vous avez enregistré dans toutes les pièces. C'est la salle de bain, comme chez tout le monde?
Pas du tout. Alors dans la salle de bain, il y a trop de réverb.
Ouais.
C'est plutôt dans le salon, parce que dans le salon, il y a beaucoup de bois, il y a des rideaux, il y a un canapé bien chaleureux, dans la chambre aussi, sur le lit, et parfois dans la cuisine.
Ah oui, c'était la cuisine,
ah, la cuisine, ça marche bien aussi. C'est un disque, hein, vous l'avez dit, ça a été enregistré en 3 jours, mais sans clic, sans casque, sans électronique, comme une session de jazz à l'ancienne. Qu'est-ce que vous y aviez gagné?
Je crois qu'on a gagné de la spontanéité, beaucoup de concentration, mais beaucoup de liberté aussi. C'est un album qui est un petit peu hors format, dans le sens où on n'a pas vraiment respecté les structures ou les formats, j'allais dire radio, mais c'est pas péjoratif, hein, c'est-à-dire vraiment, on s'est parfois laissé aller à faire des morceaux de 6-7 minutes. Ce qui était important pour nous, c'était de retrouver de la convivialité, de l'humain, d'être ensemble, de jouer de la musique, je crois qu'on en avait tellement envie, et on s'est fait un cadeau de copains, de musiciens, à se retrouver en studio sans clic, sans casque. C'était un peu l'idée, c'était de vivre les moments qu'on préfère, c'est ces moments où on se rassemble et on a le droit de se rassembler, on a le droit de jouer ensemble, et ça donne cet album Nocturne qui sort demain.
Qui sort demain. Un disque qui s'ouvre sur Papa Kossa, c'est un titre en hommage à Manu Dibango. On va en reparler dans quelques instants, on écoute juste un extrait. Ça, c'est le titre qui ouvre Nocturne, votre nouvel album, David Walters. Est-ce que vous avez eu l'occasion de le croiser, j'imagine, Manu Dibango?
J'ai eu la chance, je dirais, de le croiser une seule fois. C'était en hommage à Bizot, le patron de Radio Nova. Jean-François Bizot, quand il nous a quittés. Et il se trouve que j'étais invité pour jouer 2 morceaux guitare-voix. Manu Dibango était là et je passais juste avant lui, donc j'avais un peu le track. On était tous les deux derrière le rideau avant de monter sur scène, et donc je m'avance, je joue mon premier morceau et j'entends Manu Dibango qui fait ses gammes juste derrière moi, ses gammes de saxophone, et petit à petit je l'entends jouer dans l'harmonie de mon morceau, et en même temps que je jouais, je me dis, mais là il est en train de jouer sur mon morceau. Et le deuxième morceau que j'ai fait, en fait, Manu Dibango a traversé le rideau noir, il est venu, il s'est posé à ma gauche, il était 1 mètre derrière moi, et il a joué le deuxième morceau avec moi. J'ai pris ça comme un signe, et c'est la seule fois où je l'ai rencontré. Ça s'est terminé en éclats de rire tous les deux, et puis c'est vrai, quand j'ai appris son décès, j'étais terrassé, j'ai vraiment, ça m'a bouleversé comme beaucoup de monde. Et j'ai passé la journée à écrire cette chanson. Je me suis plongé dans un livre qui s'appelle L'épopée de la musique africaine, un livre de Florent Mazzoleni. C'est un livre super qui raconte tous les pays de la musique africaine, du Mali. Et donc il y a des infos sur Manu Dibango, et j'ai croisé un petit peu cette expérience, cette rencontre, avec ce que j'ai pu trouver dans le livre.
Un disque nocturne qui est chanté en créole, hein, une langue qui revient en ce moment dans la musique en France. Dernièrement, il y a eu Mélissa Lavo, le groupe Delgrès. Est-ce que vous y mettez, vous aussi, une dimension militante?
Parfois. C'est vrai que parfois j'y mets une dimension militante, mais bon, être artiste, c'est déjà être militant, donc je veux pas en rajouter plus que ça. J'essaye de raconter aussi des belles histoires. Je fais souvent des hommages aux artistes que j'admire, mais non, je peux pas dire que je suis militant. Je pense que je suis engagé comme tous les artistes.
Merci beaucoup, David Walters. On va se quitter avec Ça en yé, qui veut dire quoi?
Ça en yé, ça veut dire ce que je suis, et c'est ce que ça raconte, ce que je suis. Ça fait référence aussi à Martin Luther King, aux émeutes de Détroit, avec tous ces manifestants qui se qui se baladait avec la pancarte « I'm a man ». Et voilà, ce que je suis, c'est un mélange de créolité, de français, d'anglophone, d'espagnol sûrement. Je suis un métis, voilà ce que je suis.
Merci beaucoup David Walter, c'est un tout petit peu militant
quand
même.
Merci
hein,
de votre accueil.
À très bientôt, Saïni.
À bientôt, merci beaucoup.
C'est issu de Nocturne, son nouvel album qui sort demain sur le label Heavenly Sweetness.
Côté club, pour écouter chez moi, on est dans un club.
Sur France Inter.
Retour au studio 621 avec nos deux invités, Léo du duo The Pirouettes et vous, Tinmin de 1515, un groupe particulier né en 2000.
Pardon. Hein? Quand on... Non, c'est Tsimin. Il n'y a Tsimin. Pas de N, voilà.
Tsimin de 1515, donc un groupe particulier. Né, je vais très vite. Allez, en 2013, du côté d'Amiens, on en a parlé. Une bande de potes diplômés de l'ESAD, c'est une école de design, ont tous les 15 jours posté, ont tous les 15 jours posté sur Internet des performances et des vidéos. Au départ, vous êtes 5. Julia, Marvin, son frère Robin. Et puis vous et Ennio, né à Tahiti. Au départ, sur le plan musical, qu'est-ce qui vous rapproche? Qu'est-ce que vous aviez en commun?
En commun, à la base, c'était un prof. En fait, on a eu un cours en troisième année. Enfin, j'ai eu d'abord, avant mes compères, un prof qui a décidé de créer un sujet. Pour nous, c'était de créer un faux groupe de musique et de créer toute l'identité visuelle autour de ça. Donc à l'époque, il fallait faire des Facebook, des MySpace, et des sites internet, des affiches, des pochettes d'albums, un logo, des photos, plein de choses comme ça. Ça nous faisait créer pas mal de choses. Sauf qu'on s'y était pris un peu au jeu et on faisait vraiment des enregistrements de morceaux. Donc on a créé les faux morceaux, la fausse identité. Et à la fin, pour le rendu, normalement, ça se passe sur une table avec un prof qui regarde un peu les différents projets. Et puis finalement, on lui a dit, monsieur, on peut faire un concert pour le rendu. Et du coup, on a fait un concert. Ça s'est fait pendant 3 ans. Il a fait aux autres années pendant 3 ans, le temps après que lui parte ailleurs. Du coup, ils ont eu mes potes Ennio et Marvin. Ils l'ont eu 2 ans plus tard, sujet.
Vous avez eu une super note, j'imagine, non?
Je m'en souviens même plus. C'est passé au-delà de moi.
Alors, vous êtes deux nés à Tahiti. Qu'est-ce que vous leur racontez de la Polynésie à vos compères, justement, de 1515?
En fait, on essaie de leur raconter les un peu juste à la base, ça partait juste des différences de comment on a grandi, de ce qui s'est passé. Et eux, ils découvrent aussi parce que bien sûr, quand on parle de Tahiti, Polynésie française, voilà, on pense tout de suite à la carte postale. Sauf que en fait, quand on vient de là-bas, par exemple, pour nous, une des premières choses qu'on a envie de faire, c'est de partir parce que on tourne vite en rond, on fait le tour de l'île en 1h30. le tour de l'île, j'ai dû le faire peut-être, je sais pas, 100 fois dans ma vie. Et à rien, il n'y a pas de possibilité autour. On est vraiment isolé au milieu du Pacifique. Il faut faire au moins, je sais pas, 6-7 heures d'avion pour arriver aux premières terres, quoi.
Et vous pensez que quand on est à Amiens, on n'a pas envie d'en partir non plus ?
Ah si, peut-être, mais en fait...
Mais c'est plus facile.
Voilà, c'est ça, c'est que c'est plus facile, mais il y a cette chose-là qui est assez différente. Quand t'es isolé, c'est pas pareil.
Alors, je lisais aussi dans un portrait que vous regardiez du côté de l'Orero. Vous pouvez préciser en quoi consiste l'Orero ? Parce que c'est en acte, en fait, dans
15-15. Oui, alors en fait, le Orero, en fait, c'est vraiment c'est l'oratoire de la Polynésie française, enfin Polynésie tout court. En fait, c'est vraiment, c'est une prise de parole... généralement c'est une personne assez importante dans la société qui prend la parole et qui raconte des histoires, qui raconte des mythes, des légendes qui sont liées à la divinité aussi des généalogies des rois et tout ça, de ceux qui gouvernent. Donc y a pas mal de choses comme ça. Puis aujourd'hui en fait, comme il y a beaucoup de choses qui ont été interdites à l'arrivée surtout de la religion catholique, enfin chrétienne pardon. Donc ce genre de choses-là qui était un peu représentatif d'un certain vieux pouvoir, bon, ça a tout de suite été un peu prohibé, et c'est revenu juste il y a quelques temps un peu pour éviter la perte aussi de cette transmission orale.
Et de cette culture. Alors avant d'écouter un titre de votre EP Le Jeune, je voudrais qu'on entende ce qui serait la genèse de 15-15. Neva, c'est comme ça qu'on dit, c'est
exact.
Ça ? C'était le premier EP, doublé d'un clip court-métrage qu'on peut regarder sur YouTube. Ça partait dans le monde, dans toutes les directions. Ça racontait le mythe tahitien de la création du monde. On va pas revenir là-dessus, mais c'est au niveau du son. Qu'est-ce que vous vouliez mettre en place avec ce premier titre ? Parce que je disais que vous avez fait des samples avec du riz, des pois chiches, un vélo dans le steel drum.
Ouais. En fait, c'était surtout l'idée de créer notre propre matière de son. Parce que, par exemple, dans le hip-hop, ils utilisent pas mal de samples. Donc, ils vont sampler des gens. Et en fait, nous, on s'auto-sample. En fait, on crée cette matière sonore qui va être des sons de vélo. Ben, le nom du frigo, on l'appelle ça un frigo avec tous les samples dedans. Ben, c'est parce qu'on a samplé un frigo et tout ce qu'il pouvait faire comme son pour les répertorier, quoi. Hein. Et dans ce projet-là, ben, on a surtout voulu être raccord sur aussi l'image, parce qu'il faut savoir que l'image a été créée avant la musique. Et donc en fait c'est pour ça que c'était même par étapes. On a eu un premier jet du scénar et de comment ça allait se profiler. Ensuite on a fait un premier jet de musique et on s'est adapté ensuite comme ça.
Donc le EP serait presque la bande originale des images que vous aviez élaborées au départ.
C'est ça, voilà.
Ça c'était à l'époque. Aujourd'hui en 2021, voilà ce que ça donne, Le Jeune.
Changing seasons. Where is this island that looks like a prison? Where is this island that looks like a... I ask myself so many questions I can't find. Breathe in the air, liquid, look at this world. Wicked, the bug is under. Running over there, womb of my mother.
Le jeune, un titre de 15-15. Tout à l'heure, Marion demandait à David Walter s'il y avait une dimension militante dans sa musique. Je pourrais vous poser la même question, Intimine, au vu de ce que raconte le titre.
En effet, et je trouve qu'il a super bien répondu. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas engagé dans le sens où on a décidé de militer pour la cause. Par contre, c'est quelque chose qui, en fait, qui m'a choqué parce que j'ai appris vraiment... tous les effets, tout le nombre d'essais, tout ce qui s'est passé vraiment très tard.
Il faut dire ce qui s'est passé. Alors, de quoi parle le titre ? Il parle en fait des essais nucléaires qui ont été menés, plus d'une centaine, près de 200
193 essais.
193 essais nucléaires entre 1966...
66 et 96.
Et 96, véritablement, ouais. Et ça, vous avez su tard, justement, les conséquences ? Il y a eu des personnes irradiées ?
En fait, bien sûr, ça, c'est jamais forcément très notifié, compté exactement. Ils essayent aussi de réduire, de minimiser les conséquences. Mais c'est surtout... en 96, je me souviens des manifestations. J'étais jeune, je devais avoir 9 ans peut-être à l'époque. Du coup, je me souviens juste ça en fond, en contexte un peu de fond, donc pas vraiment impliqué dedans. Donc c'est vraiment à l'adolescence, enfin après le lycée, quand j'ai commencé à me renseigner, étant parti aussi en France, on se rapproche un peu plus aussi de sa propre culture, de son histoire. Et donc du coup, en me renseignant là-dessus, j'ai été choqué. En fait, c'est un peu le rôle aussi de l'artiste de transmettre ces émotions-là.
Mais pourquoi en parler aujourd'hui ? Je sais qu'en 2016, je crois que c'était en 2016, François Hollande avait reconnu ce qui s'était passé en Polynésie. Il était question d'indemniser les personnes irradiées. On en est où aujourd'hui, justement, dans ce projet ?
En fait, justement, là, ça stagne un petit peu, parce qu'en fait, ils n'arrivent pas justement à comptabiliser, à savoir qui... pour l'instant, je crois qu'il y a peut-être 4 personnes, et je crois que c'est un peu large... qui se sont fait indemniser.
Ah ouais, voilà. En effet, c'est absolument rien.
Voilà.
Et donc, vous avez réussi à sensibiliser vos copains de 15-15 à ces manifestations ?
En fait, c'est aussi Ennio, qui est aussi un artiste...
d'origine tahitienne.
Oui, voilà, c'est ça, qui vient de Tahiti aussi, et qui a aussi une petite carrière d'artiste et de sculpture, peintre. Et a beaucoup parlé aussi de ces essais-là, et c'est plus comme vous pouvez, si vous avez vu le clip,
oui.
Par exemple, vous voyez aussi que c'est pas une critique forcément de tout ça, c'est plus justement, comme je disais, c'était quelque chose qui existait en fond pour moi, et il fallait que j'en parle parce que cette porte-là, pour moi, elle est toujours ouverte. Il y a des conséquences encore qu'on peut ressentir aujourd'hui, et voilà, donc c'est plutôt dans ce sens-là, et pas pour militer spécifiquement, quoi. Surtout que je m'y connais pas très très bien encore sur le sujet.
Non, mais au moins pour sensibiliser sur cette question.
Exactement.
Léo, comment vous entendez la musique de 15-15?
Eh ben, j'aime beaucoup. Je trouvais ça super original. Et je me demandais si tu chantais toi ou...
Oui, c'est moi. Et du coup, en anglais, parce que c'était aussi ça, c'est parce que j'écoutais pas mal de musique anglo-saxonne.
Okay.
Jamais en polynésien?
Eh bien si, justement, même dans Neva Neva, on chante déjà en polynésien, en tahitien, sous forme de petits chants en Himene Tarawa, c'est des chants polyphoniques, de Orero à certains moments, et surtout en live, on a introduit pas mal de polynésiens, justement, d'actes, pour acter un peu cette live. Quoi.
Vous êtes produit, justement, sur scène en...
En 2020, oui, on a fait, on s'est vite arrêté, ça s'est vite arrêté, mais on a fait 2 concerts assis pour le festival Hop Hop Hop, et à Besançon, c'était juste comme ça, et c'est compliqué quand même, hein. Surtout notre notre projet en live, surtout, a quand même a envie de faire bouger, faire
j'imagine,
danser.
J'imagine, ouais, j'imagine.
Donc nous, on est là à donner de l'énergie, les gens sont assis et ils essayent de faire donner de l'énergie pour ne pas bouger, en fait.
Une dernière question, est-ce que vous vivez de votre musique, Simine?
Eh bien non, pas encore. En fait, on a commencé, faut se dire, à avoir une équipe un peu de professionnels qui nous entourent en 2020, quoi. Donc pour nous, on était là, ouais, c'est notre année. Eh ben, non.
C'est 2021.
Voilà, toutes nos dates ont été annulées. Ouais.
Vous travaillez par ailleurs dans le design, puisque vous aviez cette formation?
Oui, c'est ça. Ça a été très court, hein.
Ah ouais.
Parce que moi, j'ai arrêté au DNAP, c'est l'équivalent de la licence pour justement faire de la musique. Donc, j'essaie d'avoir des petits projets de freelance pour gagner un peu de sous, mais personnellement, moi, j'ai arrêté ça. Et il y a juste Marvin qui a son studio de créateur. Avec deux autres amis qui étaient aussi membres du collectif 15-15 à ses débuts.
On va se quitter tous les quatre avec un des duos qui a enchanté l'hypernuit qu'on a vécu samedi 23 janvier en direct au studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique. C'était un concert XXL de 21h à 3h du matin. Un concert qui s'ouvrait sur cette reprise des Paradis perdus de Christophe entre Juliette Armanet et Malik Djoudi. Paradis perdus retrouvés sur France Inter.
Dans ma veste de soie rose, je déambule morose. Le crépuscule est grandiose. Peut-être un beau jour.
Léo, je vous ai vu très attentif quant à cette reprise des Paradis perdus de Christophe par Juliette Armanet et Malik Djoudi.
Oui, j'adore l'original. Et la reprise était top aussi.
Magnifique, hein ?
Magnifique.
À part France Gall, vous avez fait d'autres reprises. Vous auriez aimé en faire d'autres ?
Récemment, on a repris Pearl. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est une chanteuse de R&B des années 2000. J'ai des choses à te dire, des choses qui ne se disent que... Enfin, bref,
alors là, c'est générationnel, parce qu'on ouais. a droit, tout, oui.
Simine connaît, ouais. Nous non.
Absolument pas.
C'est un sacré tube.
Je pense que vous connaissez quand même.
Oui, je pense aussi. Et vous, vous feriez des reprises ? Vous penseriez à qui, s'il devait y en avoir, pour 15-15 ?
Franchement, je saurais pas dire, mais personnellement, pour l'ensemble de 15K, je saurais pas dire, mais
ouais,
personnellement, ça serait certainement Angelo Neffer ou Bobby Holcomb, qui sont des artistes musiciens de Polynésie que j'apprécie bien beaucoup.
Très bien. Et bien voilà, ce sera la fin de Côté Club. Merci Léo.
Merci.
Équilibre, troisième album de The Pirouette sort demain. Tsimin Tsiu, merci à vous.
Merci.
Le jeune annonce le EP de 15-15 prévu pour mars, hein, je crois, le EP.
C'est ça, le vinyle sort le 12 mars.
Très bien, je recommande aussi les clips et les courts-métrages.
C'est
Marion.
Ça.
Le nouvel album de David Walter s'appelle Nocturne et il sort également demain.
Stéphane Le Guenec a assuré ce soir la réalisation, qu'il en soit remercié, ainsi que Julien Dumont à la technique. Alexis Goyer, Marion Guilbeault, Virginie Rouzic signent la programmation, qu'il soit béni, ainsi que Marc Gauthier et Muriel Pérez aux playlists. Demain, on a rendez-vous, c'est le dernier Côté Club de la semaine, 22h ou n'importe quand en podcast, émission Aristo avec Marquis, c'est le nouveau projet des ex-Marquis de Sade, et Les Marquises, le groupe de Jean-Sébastien Nouveau. Marion ?
C'est vendredi, c'est jour de sortie, trois nouveaux sons à découvrir.
Côté Club, on ferme. Je vous souhaite le bonsoir. À demain. Juste une chose, après le journal, vous retrouverez Affaires Sensibles de Fabrice Drouel ce soir, le soft power russe en France.